François Hellebronn, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et en ce 9 décembre, vous vouliez revenir sur cette date si symbolique pour la République française et de son émancipation contre l'intolérance religieuse avec la fameuse loi sur la séparation des églises et de l'État. Une loi qui est datée du 9 décembre 1905, il y a très exactement 115 ans. Et vous souhaitiez également faire le lien avec le procès en cours des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et enfin, vous allez nous parler de l'actualité de la réflexion sur la laïcité avec le projet de loi qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres pour conforter le respect des principes de la République. Alors, ça fait beaucoup de choses. Alors, on va commencer tout d'abord par nous rappeler les grands principes, François Hellebronn, de cette loi sur la séparation des églises et de l'État de 1905.
Tout à fait, Pierre. Comme vous l'avez rappelé, il y a 115 ans, jour pour jour, le 9 décembre 1905, la République remportait une victoire décisive contre l'obscurantisme et l'intolérance de l'Église catholique française en votant la loi de séparation des Églises et de l'État. Cette loi visait bien l'Église catholique et non pas les cultes minoritaires, qui étaient le protestantisme et le judaïsme en France, car l'Église catholique française, à l'époque, avait une emprise très forte sur la société française et notamment sur l'éducation des jeunes Français. Et donc c'est par cette loi des républicains laïcs, emmenés par Aristide Briand ou par Clémenceau, qu'un certain nombre de principes ont été établis, qui sont des principes structurants de notre République depuis lors. Et j'aimerais en rappeler quelques articles fondamentaux, parce qu'on les connaît mal. Tout d'abord, l'article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc, il y a une liberté de conscience, mais les cultes sont encadrés. Article 26, par exemple. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Donc, interdit dans les églises, les synagogues, les temples et aujourd'hui les mosquées de tenir des réunions politiques. Article 28. Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte. Donc, on n'a pas le droit de mettre des croix, des Mégane David ou des croissants dans les établissements publics. Article 34, très intéressant, parce qu'on voit que ça a été dévoyé très souvent, notamment dans les mosquées récemment. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc vous voyez, l'insulte par exemple à un magistrat, l'insulte aux forces de l'ordre, l'insulte au ministre pouvait être condamné pour un ministre officiant dans un lieu de culte. Mmh. Article 35, intéressant, si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu public coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, etc., etc. Et donc vous voyez bien déjà dans cet article 35 que l'appel à la violence, l'appel à la haine, qu'on a pu entendre dans certaines mosquées salafistes radicalisées, tombe sous ce coup de cette loi de 1905 qui prévoyait ça, et donc qui est protectrice de la liberté de conscience, mais aussi protectrice de l'ordre public républicain. Et notre Constitution, fondatrice de la Ve République, a repris certains de ces thèmes, et notamment dans son article 1er, où il est rappelé que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et donc, c'est un des socles de notre République et qu'il est important de saluer en cette date d'anniversaire de ces 115 ans, cette belle loi de séparation des églises et de l'État.
Alors, vous vouliez également aussi évoquer les plaidoiries de deux avocats des parties civiles dans le procès des complices, des terroristes, des assassins de Charlie Hebdo et de l'hypercacher qui vous ont marqué.
Tout à fait. Et on dira, mais quel rapport avec la loi sur la séparation des Églises et États ? Mais vous verrez peut-être qu'il y a un petit rapport. Au procès des complices des actes de terrorisme des attentats de janvier 2015, j'ai été marqué par deux plaidoiries pour les parties civiles victimes de l'hypercacher. Les plaidoiries de maître Patrick Klugman et de maître Élie Korchia. Je vous invite à les lire parce qu'elles ont été publiées par le site du CRIF. Je vous invite à les lire en entier parce qu'elles sont passionnantes. Mais je voulais retenir dans chacune des plaidoiries de ces deux brillants avocats certaines phrases qui ont fait mouche, en tous les cas pour moi, et qui font un lien entre l'antisémitisme de ces attentats islamistes et donc de cette idéologie islamiste radicale qui considère d'ailleurs que le juif est son principal adversaire et l'adversaire à abattre. Et c'est le lien justement avec cette loi sur la laïcité. Ben, il faut respecter les religions, il faut respecter les croyances, mais que chaque croyance et chaque religion respecte celle des autres. Donc je voudrais citer d'abord Patrick Klugman, qui a déclaré un certain nombre de choses très importantes. Citation. « Je déclare à la Cour que les faits dont elle est saisie ont commencé bien avant les 7, 8, 9 janvier 2015. Au nom du djihad, on avait déjà attenté à Charlie Hebdo avant 2015. On avait déjà tué des représentants des forces de l'ordre avant 2015. On avait déjà tué des juifs avant 2015. » Il continue. « La première digue qui s'est effondrée, c'est l'indignation, puis l'oubli. Le silence après chaque attentat a rendu les suivantes possibles. » Depuis trop longtemps, ceux qui ont été visés parce qu'ils étaient juifs ont subi un mépris terrible. Ce mépris, de loin, les attentats de janvier 2015 et même leurs prémices que je viens d'évoquer. Il est remonté jusqu'au 3 octobre 80 en rappelant cette phrase absolument terrible de Raymond Barre suite à l'attentat de la rue Copernic. Cet attentat odieux voulait frapper des Israélites qui se rendaient à la synagogue et a visé des Français innocents. Il a rappelé aussi que depuis le 1er novembre 2011, attaque contre Charlie Hebdo, et depuis les 11, 15 et 19 mars 2012, attaque contre les militaires et contre les élèves et le professeur juif de l'école Zohar Torah, des représentants des forces de l'ordre et les Français juifs étaient en fait des cibles esselées, des gibiers de potence pour des fous d'Allah déterminés à tuer. Et donc le lien premier qui unit les actes du 7, 8 et 9 janvier 2015, en dépit des lieux, des cibles, des auteurs, des revendications qui sont différentes, c'est incontestablement la rencontre funeste de longues solitudes exposées à la vindicte des assassins. Il a fallu attendre le 11 janvier 2015 pour qu'enfin le pays se lève, mais le 11 janvier, c'était déjà trop tard. Et donc il y a une pose, une question, et dans sa plaidoirie, que je vous invite toujours à lire, Patrick Klugman, une question essentielle, pourquoi les juifs ? Alors, pour reprendre les attentats de janvier 2015, il dit « Les caricatures du prophète sont le mobile premier. » Mais l'autre mobile, c'est évidemment la haine des Juifs. Et on s'attacherait à tout, sauf à cela. Nous attendons, et c'est, ça s'adresse à la Cour, nous attendons des mots simples et justes. Nous attendons juste un simple mot, singulièrement absent de cette procédure, l'antisémitisme. Je veux qu'il entre dans cette Cour comme il est entré dans l'hypercachère. Je veux qu'il entre dans votre verdict, car c'est par lui que l'on a fauché des vies et voulu en supprimer d'autres. On me lancera que l'antisémitisme n'est pas le problème central de notre affaire. Mon problème, c'est précisément que ce ne le soit pas. On cible ou on tue des juifs dans notre pays avec une facilité déconcertante et hors l'effet de terrorisme. La réalité des attentats de l'année 2015 prouve hélas que l'on commence à tuer des juifs, on ne s'arrête jamais avec eux. Donc c'était très important de faire le lien entre ce procès, l'antisémitisme qui a été trop longtemps occulté, notamment par les procureurs et par le parquet. Et j'espère que la Cour en tiendra compte de cette plaidoirie de Patrick Klugman. Ensuite, il y a plaidoirie d'Élie Korchia qui a présenté deux victimes de l'attentat qui ont survécu. Élie Korchia a dit un peu des choses comparables mais qui sont aussi fortes. Il nous faut reconnaître les victimes de l'hypercacher en janvier 2015, tout comme celles de l'école juive de Toulouse en mars 2012, sont trop longtemps restées dans l'angle mort de notre conscience collective. À l'évidence, les quatre victimes de l'hypercacher s'inscrivent dans la continuité des quatre victimes de l'école juive de Toulouse, tout comme les trois attentats commis par Mohamed Merah en 2012, et constituent la matrice des trois attentats de janvier 2015 que vous êtes amené à juger. Cette fureur antisémite qui constitue un tapis de haine pulsionnelle sur lequel les ennemis de notre République et de nos valeurs construisent année après année leur discours avant que d'autres ne passent à l'action meurtrière et terroriste. Oui, si 2012 représente bien l'an zéro du terrorisme islamiste qui a tué en France, ce type d'attentat s'est construit sur un terreau de haine idéologique, politique et foncièrement antisémite. Et il conclut au nom des deux rescapés qu'il représente, Zahri Siboni et Andrea Chamakh, ces deux jeunes femmes françaises et juives qui, par une curieuse ironie d'histoire, ont vécu en janvier 2015 une scène de guerre dans un pays en paix, vivent aujourd'hui en paix dans un pays pourtant en guerre.
Alors, vous souhaitiez également mettre en lien les propositions du gouvernement pour répondre aux dangers du fanatisme islamiste par son projet de loi pour conforter les principes de la République.
Oui, Pierre, parce que le gouvernement a décidé, à très juste titre, de renforcer la loi de 1905 que j'ai évoquée plus haut, en intitulant non plus la loi sur les séparatistes, de terme d'ailleurs que personne ne comprenait, qui était un peu obscur, et ils ont modifié ce projet de loi en l'appelant une loi confortant les principes républicains. C'est une loi qui a été présentée en Conseil des ministres ce matin, et qui précise un certain nombre de mesures. Alors, on n'a pas encore tout le détail, mais on les aura dans les jours qui viennent, mais j'ai voulu retenir un certain nombre de principales mesures qui ont déjà été énoncées par la presse. Tout d'abord, quelque chose de très important et quelque chose qui a été réclamé, notamment depuis l'assassinat et la décapitation horrible du professeur Samuel Paty en octobre, il va être créé un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser. Donc c'est quelque chose qui arrive de plus en plus sur les réseaux sociaux. On l'a vu à l'occasion de la décapitation de Samuel Paty, mais on l'a vu aussi à l'occasion de l'assassinat de deux policiers il y a quelques années. Autre modification très importante de la procédure pénale, et c'est quelque chose que les associations antiracistes, dont la LICRA et SOS Racisme, demandaient constamment depuis de nombreuses années, c'est que le code de procédure pénale sera par ailleurs modifié afin de permettre des comparutions immédiates pour juger les propos haineux sur les réseaux sociaux qui relèvent aujourd'hui de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. En fait, il s'agit de donner les moyens à la justice d'agir vite face à la spirale de haine en ligne, sans toucher une virgule à la loi de 1880 qui protège la liberté de la presse. En fait, à cause de cette loi sur la liberté de la presse, en fait, les procédures sont très longues, et cette modification permettra que justement quelqu'un qui dit « mort aux Juifs, mort aux Arabes, mort aux Noirs » sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, pourra être jugé immédiatement, et on pense évidemment aux propagandistes de la haine comme Soral, Dieudonné ou Robert Ménard, qui eux, on le voit à chaque fois, ont des procès 6 mois, 1 an, 2 ans après les propos haineux qu'ils ont pu tenir. Là, ils pourront passer en comparution immédiate, et c'est très important, et j'espère que cette proposition sera acceptée parce que ça changera complètement la lutte antiraciste et notamment la lutte antiraciste sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres thématiques qui sont importantes dans ce projet de loi. Ils inscrivent le principe de neutralité religieuse des agents de droit privé chargés d'immersion de services publics, notamment à la SNCF, aux aéroports de Paris, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de novateur et d'important. Et puis, sur les associations, et les associations notamment religieuses, il faut que les associations de type religieuse s'engagent à respecter les principes et les valeurs de la République. Et si ces associations, notamment des mosquées, mais même des synagogues, des églises ou des temples, ne respectent pas ces principes et ces valeurs de la République, on peut dissoudre ces associations pour des agissements commis par ses membres et directement liés aux activités de l'association. Donc les mosquées salafistes, notamment dans ce pays, pourront être dissous, fermées beaucoup plus rapidement que dans les cadres précédents. Et on le sait, ça a été des foyers d'incitation à la haine depuis une vingtaine d'années, même depuis 25 ans. Et il y aura une plus grande transparence sur le financement des lieux de culte et notamment des financements arrivant de l'étranger qui devront être soumis à déclaration et qui pourront aussi être fermés s'il y a des flux indésirables. Donc tout ça va dans le bon sens et vise à renforcer les principes de laïcité de la loi du 9 décembre 1905, d'où nous célébrons aujourd'hui les 115 ans.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.